tout de suite, retrouvons la chronique Histoire de cinéma de Jean-Philippe Gunet.
Disparu le 27 juillet à l'âge de 73 ans, Sam Shepard était une des stars du film culte L'étoffe des héros. Sortie en 1983, cette fresque de 3 heures retrace l'épopée de pilotes d'essai américains depuis le franchissement du mur du son en 1947 jusqu'au premier pas de la conquête spatiale. L'étoffe des héros est un des films américains les plus ambitieux de son époque. Et 33 ans après sa sortie, il n'a rien perdu de sa puissance. Cette épopée, c'est l'écrivain Tom Wolfe qui l'a racontée dans un livre. En 1979, les producteurs indépendants Robert Chartroff et Irwin Winkler en achètent les droits. Ils embauchent William Goldman, scénariste oscarisé de Butch Cassidy et le Kid et des Hommes du Président. Goldman est intéressé par la dimension patriotique du sujet, histoire de prendre le contre-pied d'un fait d'actualité douloureux, la crise des otages de l'ambassade américaine en Iran. Il centre le scénario sur les pilotes devenus astronautes et écarte complètement du récit Chuck Yeager, le premier homme à avoir franchi le mur du son et qui n'a pas participé aux premières expéditions spatiales. En 1980, United Artists accepte de financer le film à hauteur de 20 millions de dollars. Michael Ritchie, le réalisateur de Voté McKay, est pressenti pour L'étoffe des héros, tout comme John J. Avildsen, oscarisé pour le premier Rocky. C'est finalement Philip Kaufman qui hérite du projet. Il a alors 6 films à son actif, dont La légende de Jesse James en 1972 et L'invasion des profanateurs en 1978. Philip Kaufman n'aime pas le scénario de William Goldman et veut que Chuck Yeager soit réintégré au film. Du fait de cette divergence, Goldman quitte le projet, suivi par United Artists qui, suite à l'échec de La Porte du Paradis de Michael Cimino, n'est pas pressé de lancer la production. L'étoffe des héros est récupérée par The Ladd Company qui injecte 17 millions de dollars. Tom Wolfe, l'auteur du livre, refuse de réécrire le scénario. Lui non plus n'est pas d'accord avec les choix de Philip Kaufman. Philip Kaufman engage un groupe de comédiens alors peu connus. Sam Shepard, qui avait tout de même joué dans Les Moissons du Ciel de Terrence Malick, Scott Glenn, Dennis Quaid, Lance Henriksen et Ed Harris. Lors de son audition, Ed Harris n'est pas satisfait de sa lecture et insiste pour avoir une seconde audition. Philip Kaufman veut que les journalistes ressemblent à une nuée de sauterelles. Il fait appel à une troupe de théâtre de San Francisco, les Fratelli Bologna. Alors que la plupart des comédiens décident de rencontrer le véritable pilote qu'ils incarnent à l'écran, Scott Glenn choisit de ne pas faire connaissance avec Alan Shepard. Ce dernier ne s'en offusquera pas et dira que la performance de l'acteur était impeccable, même si, d'après lui, le comédien est loin d'avoir un physique aussi classe que le sien. Le tournage de L'étoffe des héros se déroule de mars à octobre 1982 dans la région de San Francisco. Une base abandonnée de l'US Air Force, Hamilton Air Force Base, fournit le décor pour une partie du film. Pour les séquences à Edwards, impossible de faire autrement que de tourner dans la vraie base dans le désert de Mojave. Le paysage est très reconnaissable et ne peut pas être reconstitué ailleurs. Début 1983, une séquence additionnelle est tournée près de California City, celle de l'éjection de Chuck Yeager de son F-104. Le vrai Chuck Yeager est le consultant technique du film. Il emmène les acteurs en vol, il étudie les storyboards et fait rectifier les erreurs techniques. Il fait aussi une petite apparition dans le film, dans la peau d'un barman. Pour les séquences aériennes, la production utilise de vrais appareils, mais aussi des trucages variés. Le vol du X-1, l'appareil avec lequel Chuck Yeager franchit le mur du son, est filmé avec une maquette sur un câble qui passe très vite devant la caméra, le tout sur fond de véritable ciel avec des nuages créés artificiellement. Pour le F-104, une maquette est lancée depuis une sorte d'arbalète. Son vol est capté par 4 caméras. Le pas de tir de Cap Canaveral en Floride est aussi reconstitué avec des maquettes. Au départ, le superviseur des effets spéciaux Gary Gutierrez trouve que le film a un aspect trop propre et cherche donc à le rendre plus poussiéreux et usagé. Pour les scènes de réentrée dans l'atmosphère de la capsule Mercury, du nitrogène liquide est injecté dans la maquette. Il s'évapore immédiatement, ce qui provoque une grosse condensation. Pour donner l'illusion des flammes auxquelles les vraies capsules sont confrontées, dues au frottement contre l'air de plus en plus dense, la séquence est tournée dans une lumière orange. Une fois le tournage terminé, Philip Kaufman donne à son équipe de monteurs une liste de documentaires à voir. Il fait aussi rechercher des images d'archives de la NASA, du constructeur aéronautique Bell et de l'US Air Force. Des images soviétiques vieilles de 30 ans sont même découvertes par hasard. En décembre 1982, des images authentiques de John Glenn en orbite dans l'espace sont volées dans les salles de montage. Elles ne seront jamais retrouvées, mais reconstituées à partir de copies. Pour écrire la bande originale, c'est d'abord John Barry qui est prévu. Compositeur de plusieurs James Bond et de Macadam Cowboy, il ne s'entend pas avec Philip Kaufman et se retire du film. Du coup, c'est Bill Conti qui hérite de la mission, l'auteur de la musique des deux premiers Rocky ou encore de Gloria de John Cassavetes. La première de l'étoffe des héros a lieu le 16 octobre 1983 au Centre Kennedy à Washington. Le film a ensuite une sortie limitée sur le territoire américain, puis générale en février 1984. Les critiques sont enthousiastes, mais curieusement, le film est un échec au box-office, avec seulement 21 millions de dollars récoltés. En France, il sort le 25 avril 1984 et attire 638 000 spectateurs. La consolation viendra aux Oscars 1984, où le film récolte 4 statuettes, meilleur son, meilleur montage son et meilleure musique. Bien que récompensé par un Oscar, la bande originale devra attendre 2009 pour sortir dans les bacs. Largement réévaluée depuis son échec initial, l'étoffe des héros a été un tremplin pour ses acteurs, et il reste un film qui traverse le temps sans vieillir. Ce qui fait sa valeur, c'est bien sûr sa réalisation épique et ses effets spéciaux spectaculaires. Mais c'est surtout son portrait d'homme dévoré par leur passion. Et il n'oublie pas non plus de parler des femmes. Les épouses des pilotes sont des personnages essentiels qui font entendre la voix du bon sens et posent des questions très pertinentes sur l'attitude de l'armée vis-à-vis de ses pilotes et de leurs proches. À l'époque de la sortie du film, le vrai John Glenn est sénateur de l'Ohio et veut se présenter à la primaire démocrate. Du coup, beaucoup pensent que le film va aider ses ambitions présidentielles, ce qui sera faux au bout du compte.
C'était Histoire de cinéma par Jean-Philippe Gunet. Une chronique que vous pouvez retrouver les mardis et jeudis à 9h et 15h sur Art District.